Mondial Sport sur RFI. Martin Guez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mondial Sport, menu unique. Bienvenue pour la seule édition du week-end de votre magazine. Hier soir, on a laissé place à la CAN, à qui on fera encore la part belle ce dimanche. Avec la qualification historique de Madagascar pour les huitièmes de finale, la grande île qui se paye même le luxe de finir en tête de sa poule. La RDC, elle, peut encore y croire, tout comme la Guinée. Tandis que la Mauritanie n'a, elle, pas dit son dernier mot et a décroché le tout premier point de son histoire dans une CAN. On y reviendra. La CAN, mais pas que. Pour éviter l'indigestion, une pincée de Copa América, un brin de Gold Cup et cerise sur le gâteau. Le mondial féminin, mondial sport, overdose de football, c'est parti. Et on commence par ce troupeau de Barea lancé à pleine vitesse qu'Hugo Moissonnier essaye de suivre depuis le début de cette compétition. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous. je m'accroche, mais c'est dur de les
suivre. Voilà, le berger qui essaye de suivre ce troupeau que rien ne peut arrêter. Première canne, premier but, premier point, ça c'était contre la Guinée. Et première victoire contre le Burundi et ce dimanche, première place du groupe pour Madagascar.
Et cette première place, Martin, elle est synonyme, vous le disiez, de qualification pour les huitièmes de finale. Cerise sur le gâteau, cette première place, elle a été acquise aux dépens du Nigeria. Vous imaginez un peu un mondialiste, un triple champion d'Afrique. Bon, les Eagles n'avaient pas grand-chose de super ce dimanche, avec pas mal de coiffeurs alignés au coup d'envoi, des coiffeurs de luxe, hein, certains comme John Obi Mikel, ancien de Chelsea, un homme qui a pratiquement tout gagné, alors qu'en face, les Malgaches, ils jouent au mieux en Ligue 1 ou en première division belge, et souvent ils jouent un peu en dessous, mais ils ont des atouts à revendiquer, c'est Barea. L'Alaina Bolide a profité d'une erreur de la défense pour ouvrir la marque avant le premier quart d'heure. Carolus a vu son coup franc détourné fermouche en début de seconde période, et oui, de la réussite, il en faut, mais ce groupe malgache le mérite, nous dit son défenseur Pascal Bapas.
Ah, pour nous, c'est grosse émotion déjà pour gagner contre Nigeria. C'est la meilleure équipe de l'Afrique. On respecte beaucoup, mais sur un terrain, on a tout donné. Donc il n'y a pas de nom, on ne joue pas sur le nom. On a fait tout ce qu'il fallait. Petit à petit, on commence à prendre confiance. Et nous, notre force, c'est ça. Dès qu'on a la confiance, dès qu'on a le ballon, on peut jouer, on peut battre n'importe qui. Mais notre force aujourd'hui, c'était collectif. Au niveau offensif ou défensif, on a fait des efforts. Et on a senti, quand on mène 1-0, notre force, c'est qu'on pense déjà au peuple qui nous attend. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont promis que si on gagne aujourd'hui, ils sont le plus heureux du monde. Donc on a fait, et je pense qu'aujourd'hui, il y a la fête à Madagascar.
Esprit collectif, mais volonté de jouer également. On ne gagne pas 2-0 face au Nigeria n'importe comment. Il faut pour cela aussi être capable de prendre et de donner du plaisir sur le terrain. Il faut dire que le milieu des Berea, il a du ballon. Il est composé d'Abel Anissé, de Marco Ilema Aritra et d'Ibrahim Amada.
On n'avait pas de pression. On n'avait pas peur de jouer. Le coach a dit jouer et montrer ce que vous avez parce que vous avez du talent et montrer aux gens que vous méritez d'être là, mais c'est pas par hasard que vous êtes là. Et on a prouvé à tout le monde qu'on sait jouer au foot et on a joué au football et on a gagné 2-0. Et c'est un score mérité.
À quoi vous pensez là? À qui vous pensez?
Là, honnêtement, je pense à ma mère qui est déjà partie. C'est là que mes pensées vont en premier. Après, à toute ma famille et tous les peuples malgaches qui sont derrière nous depuis le début de notre aventure.
Et l'aventure, elle a débuté en tour préliminaire d'éliminatoire de la CAN. C'est quand même incroyable.
Oui, parce qu'on y a cru, on y a cru. On part à Sao Tomé avec des joueurs qui... L'effectif n'était même pas au complet, on gagne. On part au Soudan, on gagne et voilà. On continue l'aventure et on espère aller le plus loin possible. Et sur un match, là, on joue à élimination directe. Et sur un match, tout peut se jouer. Et on va jouer nos chances à fond. On le vit à fond. On ne va pas se réveiller. On va poursuivre encore cette rêve.
Voilà, il est là l'objectif sous-jacent. Hugo, continuez de rêver pour le peuple malgache.
Oui, c'est notamment l'objectif du sélectionneur, l'un des grands, peut-être même le grand artisan de cet admirable parcours, hein, du tour préliminaire désignateur de la CAN à ce dimanche, la première place du groupe B à Alexandrie. Le grand artisan de ce parcours, c'est le sélectionneur Nicolas Dupuis.
On montre actuellement une belle image de Madagascar, on fait parler de Madagascar et ça donne beaucoup de plaisir aux Malgaches et je suis très content de ça. Ça ne remplacera pas tout ce qui s'est passé évidemment, ces personnes décédées malheureusement le jour de l'indépendance. Je pense aussi à ce supporter décédé lors d'un match contre le Sénégal il y a 8 mois. Tous ces gens qui nous supportent, moi je leur fais un gros coucou et vous pouvez être fiers de vos joueurs et on va faire la fête bientôt ensemble.
Vous avez un adversaire qui vous plairait un peu plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a, vous avez un nom en tête?
Non. Je n'ai pas regardé contre qui on pouvait jouer parce que je n'avais pas osé regarder en terminant premier. Je crois que ça peut être l'Afrique du Sud, mais je ne suis pas sûr. Donc vraiment, toutes les équipes sont difficiles pour nous puisqu'on est vraiment de tout petit poussé.
De petit poussé, en effet. Au moins, ils vont avoir du temps de le préparer ce huitième. Alors, le temps déjà de connaître l'adversaire. Ils ne joueront que dimanche prochain, sans avoir à déménager les Malgaches. La ville fondée par le grand Alexandre sera encore celle du petit poussé de la CAN cette semaine. Petit bémol, Marco Ilemaritra, je vous parlais de lui tout à l'heure, l'homme qui a offert à Mata sa première victoire contre le Burundi, ne sera pas là pour ce huitième de finale. Il est suspendu, Martin.
Eh ben, merci beaucoup, Hugo Moissonnier. Hugo, qui a donc suivi Madagascar, premier de son groupe, hein, qui a suivi une équipe un petit peu plus en difficulté. C'était la République démocratique du Congo. La RDC qui avait perdu ses deux premiers matchs, mais la RDC qui ne fera sûrement pas premier de sa poule, mais qui peut encore espérer passer comme meilleur troisième. On rejoint tout de suite Olivier Pron. Olivier Pron, qui a dû être réconcilié avec la CAN après très peu de buts hier. Aujourd'hui, c'est l'homme, Olivier Pron, qui a vu des buts. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Je rappelle que pour les deux premiers matchs de la RDC, je n'étais pas là.
Et ben voilà, vous avez réconcilié la RDC avec cette Coupe d'Afrique.
Kinshasa.
Avec cette Coupe d'Afrique des Nations.
Bien accueilli.
En tout cas, les Léopards qui ont rempli le contrat aujourd'hui.
Oui, ils ont rempli le contrat, on l'avait dit, il fallait gagner, et si possible, par le plus de buts d'écart, en marquant un maximum. Bah, c'est fait. 4-0, il n'y a pas eu photo, un but dès la quatrième minute, on peut pas faire mieux, un coup franc de Jacques Magoma, qui est cafouillé, non pas par Chigova, le gardien annoncé sur la feuille de match, mais par Chipezeze, qui relâche ce ballon sur sa transversale, et Bolingui est là en renard pour reprendre de la tête à bout portant. 1-0 à la 4e, 34e cette fois lancé par un extérieur de Mpeko dans la profondeur. Bakambu à son tour, un boulevard pour venir tromper à son tour donc d'un extérieur le gardien zimbabwéen. 2-0 à la pause, 3-0 toujours par Bakambu qui est fauché par Chipezeze à la 65e. Pénalty impeccable, contre-pied parfait, 3-0, et puis le quatrième but vient à la 76e avec un entrant, la frappe de Michak Elia, relâché, encore une faute de Chipezeze, c'était pas son soir. Et puis Asamba Longa qui était rentré pour remplacer, ça c'est le seul point noir pour le moment, qui était rentré pour remplacer Bolingui, qui vient récupérer ce ballon relâché. Asamba Longa, 4-0, rien à dire. Ils ont rempli le contrat, les joueurs de la RDC. Ils sont encore en vie et c'est l'essentiel.
Alors, on l'a compris, Olivier, en écoutant votre résumé, le Zimbabwe qui a passé une soirée compliquée, notamment le gardien. Et le Zimbabwe qui ne pouvait pas espérer grand-chose de plus. Donc, on rentre à la maison.
Oui, il rentre à la maison et c'est assez mérité. On l'avait dit avant le match, ils n'avaient jamais perdu contre la RDC. Ils étaient même allés gagner parce que les deux équipes étaient dans la même poule de qualification à cette CAN 2019. 1-1 à Harare et victoire 2-1 à Kinshasa. Il y avait une autre confrontation qui avait donné un nul. Bref, il y avait vraiment un ascendant psychologique a priori pour les Zimbabwéens. Bah, ce soir, ça s'est pas vraiment vu. Ils sont passés au travers, notamment offensivement. Il y a eu des avant-dernières passes pas mal, mais des dernières passes ou des tentatives de conclusion complètement manqué. Ils ont tout vendangé, rien ne voulait rentrer. Matampi a fait un bon match, mais bon, voilà, il n'a pas été non plus impérial. Non, ça voulait pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pour la quatrième participation à la CAN, les Warriors, qui n'avaient de Warriors que le nom, hein, ce soir, les Warriors rentrent à la maison sans franchir le premier tour.
Et pour vous, Olivier, ce soir, il va falloir sortir l'aspirine, sortir la calculette, et pour la RDC, il va falloir attendre maintenant.
Oui, il faut attendre, mais celui qui sort l'aspirine et la calculette, c'est le réfé. Hein. Il nous a envoyé un mail long comme le bras pour, avant le match, nous expliquer ce qui pouvait se passer. Il recommence là maintenant. C'est impossible de faire des calculs, tout peut se passer. On n'est même pas sûr que... En étant troisième avec 4 points, on puisse se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, ils sont troisième, ça c'est sûr, avec 3 points. Ils ont réussi en s'imposant 4-0 à revenir à une différence de but de 0. Mais tout est encore possible. Je réfléchissais, il y a par exemple un Cameroun-Bénin mardi à Ismaïlia. Si jamais il y avait match nul, ben les Béninois auraient 3 points aussi. Et la différence de but des Béninois, puisqu'ils ont fait 3 matchs nuls, serait également de 0. Alors ça se jouerait au nombre de buts marqués. Enfin bref, dès demain, il y a des possibilités avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud. Ils sont troisième. quatrième de leur poule actuellement. Ils ont 3 points, ces deux équipes. Mais qu'est-ce qu'il va se passer demain? Donc, trop de possibilités pour tirer des plans sur la comète. Et c'est maintenant que c'est presque le plus dur pour les Congolais parce qu'ils vont rentrer à leur hôtel. Ça tombe bien, c'est le même que le nôtre. On va pouvoir se croiser pendant 48 heures. Et ils vont attendre fébrilement devant la télé, déjà demain, et puis encore mardi. Puis tout d'un coup, peut-être que mardi, à la faveur des résultats, il va y avoir une explosion de joie. Et là, on va être réveillé en pleine nuit. On va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui crient partout. Ou alors, bah, il y aura des larmes. Il faudra rentrer à Kinshasa, tout malheureux parce qu'on aura été éliminé. En tout cas, ils sont en vie. C'est l'essentiel. Ils ont produit enfin le match qu'on attendait d'eux. Et quand on joue au football, qu'on vient faire une compétition, que c'est le jour de célébration de l'indépendance aujourd'hui, 59 ans, le Zaïre devenu RDC est indépendant. Il y avait la fête au pays, ils peuvent continuer à faire la fête parce que 4-0, c'est un beau cadeau que les hommes de Florent Ibenge ont offert au peuple congolais et on aimera bien faire la fête.
J'espère que vous allez pouvoir aller la faire, la fête, Olivier. On vous souhaite pas de maux de tête, on vous souhaite de sortir maintenant du stade. Il paraît qu'il fait tout noir, qu'on vous met dehors. Je vous laisse.
On va dormir là parce que demain on y commande 2 matchs que nous dans ce stade-là.
Je vous laisse dormir, je vous laisse filer. Vous faites ce que vous voulez de votre soirée, Olivier Pronot. On va prendre la direction de la Guinée. Enfin, pas vraiment de la Guinée, on reste en Égypte, mais on va parler de cette Guinée. C'est une autre équipe qui peut encore se qualifier en tant que meilleure troisième. La Guinée qui a fait le travail, vous l'avez d'ailleurs vécu sur RFI, sous le regard d'Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Martin Guèze, bonsoir tout le monde.
Alors les Guinéens décevants jusque-là qui se sont un petit peu réveillés avec un succès 2-0.
Et oui, comme vous dites, ils se sont un peu réveillés ces Guinéens. Alors bien aidés quand même par l'expulsion dès la 12e minute de l'arrière-gauche burundais Christophe Ndouarougira. Mais c'est un peu de sa faute, hein. Une passe en retrait pas assez appuyée à son gardien Yatara, l'attaquant du Sili National qui s'infiltre. Et puis du coup, le latéral fait faute alors qu'il est dernier défenseur. La sanction administrative, comme dirait Joseph-Antoine Bell, est immédiate. Carton rouge, Ndouarougira qui s'effondre en larmes, déçu d'abandonner ses coéquipiers aussi vite. C'était poignant, presque déchirant. Et la situation, à ce moment-là, est devenue très précaire pour le sélectionneur burundais, Olivier Nyongeko.
Quand j'ai vu ce match avec ce carton rouge, vous savez, nous, notre travail, c'est difficile. Quand tu avais 11 joueurs sur le terrain et qu'il y a un qui sort, et tout le plan quand même va changer. Et le plan a changé, mais on a essayé de jouer avec un plan d'attaquer aussi parce qu'on n'avait rien à perdre. Mes joueurs se sont donnés, ils sont épuisés. On n'a pas croisé les bras parce qu'on a eu un carton. Ça, c'est un comportement que j'aime bien pour les footballeurs. Quand tu as un carton, il ne faut pas croiser les bras, dire que c'est fini. On a essayé de jouer, on a essayé d'attaquer. Mais malheureusement, c'était difficile à 10 à son niveau de compétition. Et c'est pour ça que je dis félicitations à mes joueurs, félicitations aussi à mon collègue et je vous souhaite bonne chance.
Oui, ils ont continué à produire du jeu, les Burundais, face à des Guinéens privés de Naby Keïta. Le milieu de terrain de Liverpool avait pourtant rassuré sur son état physique samedi en conférence de presse, mais finalement il s'est présenté à l'échauffement d'avant-match en basket et pas en crampons, preuve qu'il était forfait pour cette rencontre.
Et Antoine, quand Naby n'est pas là, qui on appelle? On appelle l'ancien Lyonnais Mohamed Lamine Yatara.
Et oui, déjà en jambes, hein, parce que c'est lui qui provoque l'expulsion de Ndouarougira. Mais en plus, il marque, d'abord opportuniste, hein, sur un deuxième ballon à la 25e. Kamano frappe, ballon repoussé par la défense sur Yatara. Et le joueur d'Angers marque sans contrôle dans le but vide, 1-0. À ce moment-là, le match est fini, hein, parce que si les Burundais montrent de belles intentions, comme cette frappe lointaine de Kouizera à la 19e minute, le Sili gère tranquillement. Et en seconde période, Yatara s'offre même un doublé, le tout premier de cette 32e édition de la CAN.
Ça fait énormément du bien, parce qu'on sait qu'on était attendu. Quand tu vois le potentiel qu'on a dans l'équipe et qu'on n'arrivait pas à gagner nos matchs, franchement, c'était pas possible. Il fallait quand même montrer de quoi on était capable, parce qu'on sait que le talent, ça suffisait pas. Il fallait avoir du mental aussi, c'est ce qu'on a montré ce soir. J'ai joué le premier match à 5 minutes, et le second, j'avais pas joué. Là, j'avais vraiment à cœur de vraiment tout donner. J'ai été récompensé en marquant 2 buts. Donc franchement, je suis vraiment content, et surtout pour l'équipe, parce que maintenant on est passé, on verra sur quelle nation on va tomber. Je pense que maintenant on est vraiment prêt psychologiquement. Plus rien peut nous surprendre maintenant, on a vu le niveau de la CAN, on sait maintenant à quoi s'attendre.
Mohamed Lamine Yatara qui répondait à Christophe Jousset. Avec ce succès, eh bien, le Sili National s'offre le droit de rêver un 8e de finale, Antoine.
Mais oui, parce que les Guinéens comptent 4 points avec une différence de but de plus 1. Donc les joueurs de Paul Put doivent maintenant attendre les résultats des autres groupes pour savoir s'ils figurent ou non parmi les meilleurs 3e. Quant au Burundi, cette toute première CAN de l'histoire aura manqué d'un tout petit quelque chose, parce que L'élimination est somme toute logique pour les Hirondelles, mais Mohamed Amissi aurait aimé que son équipe marque, même si le milieu de terrain est heureux de l'image montrée par les Burundais dans cette Coupe d'Afrique à 24.
C'est la première fois, comme on l'a dit, que la Burundi s'est qualifiée à la CAN. On a tout donné, comme j'ai déjà dit. On est satisfait, on est content. On apprend beaucoup. D'abord, on voit les qualités des autres équipes. Le niveau est très haut. Ça va très vite. Alors maintenant, c'est à nous de, à la prochaine CAN, si on est là. Comme ça, on a pris les expériences et de se préparer bien pour ça.
Vous êtes plus déçu par quoi ? Par l'élimination au premier tour ou par le fait de ne pas avoir réussi à marquer ce but historique pour le Burundi ?
Ouais, c'est ça qu'on est plus dessus, le but là. Mais en 2021, on va marquer notre premier but à la CAN.
Mohamed Amissi qui prend donc rendez-vous. Voilà Martin, notons quand même que le Burundi est la deuxième équipe officiellement éliminée de cette Coupe d'Afrique après la Tanzanie dans le groupe C.
Et bien merci beaucoup Antoine Grenier. Allez, on file du côté d'Ismaïlia dans le nord-est de l'Égypte. C'est au bord du canal de Suez où la nuit a été courte et difficile pour les Béninois, mais on espère un petit peu meilleur pour Frédéric Suto. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors les écureuils du Bénin qui sont tombés de haut hier soir face à la Guinée-Bissau.
Et oui, un match nul, 0-0, un point seulement après celui pris mardi lors du premier match face au Ghana. Donc 2 points en tout pour les écureuils dans ce groupe F avant d'affronter le Cameroun mardi. Mais oui, la déception est immense et grande, Martin. Il y a eu cet espoir, cet élan suscité par le très bon match nul face aux Ghanéens avec le doublé de Michael Poté, où les Béninois sont même sortis de la pelouse en se disant qu'ils auraient pu sans doute l'emporter face aux Black Stars du Ghana. Et ils étaient remontés à bloc avant ce match face à la Guinée-Bissau, le Bénin, qui, rappelons-le, avant d'arriver en Égypte, ici, pour sa 4e CAN, restait sur 3 défaites au premier tour en 2004, 3 défaites au premier tour en 2008 et en 2010, 1 nul face au Mozambique et 2 défaites. Donc oui, tout le pays attendait cette première et vous aviez hier plusieurs centaines de supporters béninois, on les a entendus durant toute la retransmission, hein, qui étaient là dans les tribunes à Ismaïlia, mais les écureuils n'ont pas trouvé la faille. Pourtant, Stéphane Sessegnon était de retour après 3 matchs de suspension. Steve Mounier a eu la balle de but à un quart d'heure de la fin, sa tête est passée au-dessus. Les joueurs de Michel Dussuyer hein, se sont montrés fébriles, empruntés par moments, hein, comme s'il y avait finalement trop de pression, trop d'attente. Des Béninois, heureusement pour eux, Martin, qui n'ont pas pris de but, mais qui ont été incapables de battre les Bissau-Guinéens.
Bon, maintenant, Frédéric, les Béninois n'ont quasiment plus le choix pour se qualifier pour les huitièmes et il leur faudra très probablement gagner face au Cameroun mardi. Un match nul peut-être peut suffire, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils y croient, ces Béninois ?
Ils se disent qu'ils y croient, en tout cas, ils nous le disent, nous les avons croisés aujourd'hui à l'heure du déjeuner. Alors vous aviez des joueurs qui étaient là déjà en train d'imaginer le scénario du match de mardi face aux Lions indomptables du Cameroun, les Camerounais champions d'Afrique en titre. On a tendu l'oreille, 0-0 à la mi-temps, on ouvre le score à la 68e, Choupo-Moting qui égalise, un véridique, hein, ils le disaient. Mais on marque dans les dernières minutes et on gagne 2-1, on se qualifie. Donc oui, ils y croient, les écureuils, ils sont dans leur match, il faudra un exploit, cette première victoire en phase finale, peut-être, face aux Camerounais. Nous les avons suivis cet après-midi à l'entraînement sur l'ancien stade du canal de Suez, à la nuit tombante, des petits jeux, des étirements, beaucoup de discussions avec le staff et un Michael Poté qui prend déjà rendez-vous.
Vous verrez, beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est fini et tout. Mais moi, je vous dirais que je vous l'aurais dit. Ça rend la tâche difficile pour nous, comme ça rend la tâche difficile pour eux aussi. Et je pense qu'ils nous ont bien observé pendant ces 2 matchs. Et ils voient que voilà, on est une équipe qui va être difficile à bouger. Maintenant, voilà. Moi, je sais que j'y crois. Et on y croit tous. Je peux vous garantir qu'on y croit. Et voilà, on va les déranger. Quoi qu'il arrive, on va montrer que voilà, on n'est pas venu ici pour rien. Regardez mardi, Inch'Allah, vous allez voir.
Voilà, Michael Poté, vous savez quoi Martin, on va voir, ça tombe bien, on y sera avec Thibaut Baduel, Bénin, Cameroun, mardi dans notre stade, hein. On est ici, on y est bien.
On vous laisse dans votre stade, c'était une magnifique bande-annonce, merci Frédéric Suto. Et puis on termine cette page CAN par la Mauritanie qui elle est encore très loin des huitièmes de finale. Les Mauritaniens qui découvrent la CAN et qui n'ont qu'un point après 2 matchs. Mais un point c'est déjà bien, c'est même historique pour les Mourabitoun et le défenseur Diadié Diarra. Un point historique donc, un point qui permet de croire encore en une qualification pour les huitièmes de finale. Un point obtenu à Suez contre l'Angola, pour cela les Mourabitoun Cameroun vont devoir maintenant battre la Tunisie mardi lors de la dernière journée. Pas forcément évident, surtout après la nette défaite inaugurale essuyée face au Mali, 4-1. Mais ça reste un bon résultat hier, ça a rassuré le groupe, et un groupe qui y croit, à l'image donc du joueur de Sedan. Sedan club de National 2, Diarra, au micro d'Éric Mamourite.
Le groupe a retrouvé du sourire, de la confiance face à l'Angola. On a commencé par une défaite, là on fait un nul. J'espère qu'on finira par la victoire et qu'ils nous qualifieront pour les 8e.
Ce point, il vous a vraiment fait du bien?
Puis franchement, il nous a fait du bien. Surtout, on a retrouvé la solidité défensive, la confiance. Tout le monde était compact. Là, tout le monde a, on a tous avancé du même sens. Tout le monde était dans le même bateau. Franchement, là, on a senti que c'était une équipe qui jouait tous ensemble et qui voulait faire quelque chose. Et là, gagner le match contre Tunisie, franchement, ce serait la victoire du siècle. Les pays n'ont jamais fait, ils sont qualifiés. Franchement, tout le monde serait content. Et nous, les premiers, là, on va travailler pour ces deux jours, pour rivaliser. J'espère qu'on va continuer l'aventure tous ensemble. Franchement, ce serait du bien pour le pays, et nos familles, et pour le staff et tout qui nous fait travailler. Ça fait un mois, on est là. Franchement, qu'on soit récompensé, on va tout donner. J'espère qu'on va tout donner pour ce match de mardi face à la Tunisie.
Qu'est-ce qui vous permet de penser, de croire que vous pouvez battre la Tunisie?
Franchement, 90 minutes, on l'a bien vu en Ligue des Champions. Il n'y a pas de grandes équipes, des gros grandes équipes, même eux, ils sont remontés. Pourquoi pas nous? Là, tout le monde a des qualités pour. Sur 90-95 minutes, il peut tout arriver, on l'a bien vu. Personne n'espérait dans le Barça, Liverpool, personne n'espérait. Pourquoi pas nous?
Mais là, on a l'impression que sur le papier, il y a une grosse différence. Par exemple, vous évoluez à Sedan, en National 2, et à côté, Wahbi Khazri, il est quatrième de Ligue 1. Donc,
Oui, c'est sûr. Après, on ne va pas regarder ce qu'ils font, eux. Parce que si on part sur ce côté-là, on va déjà se mettre des problèmes dans la tête. On va jouer, on a déjà joué contre le Burkina, ils avaient des grands joueurs, ils ont des très grands clubs. C'est pas pour autant qu'on ne les a pas battus. Vous voyez, on a joué plusieurs matchs en phase de poule, l'Angola, le Burkina. Franchement, il y avait sur le papier, si on partait comme ça, directement les gens, jamais ils ont misé sur nous. Et à la finalité, ils se sont trompés.
Pas de complexe alors?
Non, pas de complexe. C'est complexe, on va régler ça à la fin du match quand la victoire sera de notre côté, j'espère.
Mais il va falloir mettre un petit peu plus de buts, être un peu plus efficace quand même.
Mais franchement, les derniers ballons, il faut qu'on les spot mieux, parce qu'on a souvent des occasions dans les matchs. Franchement, si on arrive à tuer dessus directement, et déjà ça redonnerait la confiance pour tout le monde. Et là, une fois qu'on mène, on joue plus pareil. Là, on sait ce qui nous attend à la fin sur ce dernier match. Là, une fois qu'on mène, et bah, on va savoir ce qu'il va falloir faire derrière. Et tout le monde va sentir un peu pour bomber le torse. Et ça va donner encore plus de force.
Et l'autre match du groupe opposera le Mali à l'Angola dans un groupe E où les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Allez, on ferme la page Cannes pour ce soir. On quitte l'Afrique, direction le Brésil, la Copa América. Les affiches des demi-finales font saliver. Brésil-Argentine d'un côté, Pérou-Chili de l'autre. Et on retrouve quelqu'un qui s'y connaît bien en foot sud-américain. C'est Nicolas Cougo, le rédacteur en chef du site Lucarne Opposée. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes donc le créateur, le rédacteur en chef de Lucarne Opposée. Vous êtes même allé jusqu'au Brésil pour cette Copa América. Vous êtes actuellement en transition, je crois que c'est dans le bus entre Rio et Belo Horizonte, pour aller voir Brésil-Argentine. C'est la grande affiche que tout le monde attend, mais deux équipes qui ont peiné dans cette Copa América pour en arriver jusque-là.
Ouais, qui ont peiné, enfin surtout dans le jeu, surtout l'Argentine, parce que le Brésil quand même, il est monté en puissance. Donc ouais, puis ça va nous faire un classico, un super classico des Amériques, un petit peu chaud. Ça va nous faire du bien d'avoir un peu de chaleur dans les stades.
Ouais, puisque pour l'instant c'est pas vraiment ça, c'est ça cette Copa, elle passionne pas les foules au Brésil.
On n'a pas franchement la sensation d'être dans une Copa América. Enfin, moi j'avais fait celle du Chili il y a 4 ans. Et on savait qu'on était en train de voilà, qu'on allait à une Copa América, il y avait des drapeaux partout, des choses, enfin voilà, des animations partout. Là, c'est pas vraiment le cas, c'était pas vraiment le cas à Sao Paulo, c'était toujours pas le cas à Rio. On va voir là, Belo Horizonte. Après, ça a commencé à monter, hein, parce que Chili, Uruguay, au Maracana, il y avait une ambiance assez énorme. Et même l'Argentine, Venezuela, les Brésiliens, avaient pris fête Écosse pour les Vénézuéliens, donc ça commençait à se chambrer très très fort en tribune. Ouais.
Et du coup, côté brésilien, sportivement, on sent qu'ils sont très impliqués, cette équipe. On sent que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné la Copa América. Ils ont pas mal de choses à se faire pardonner. Ils ont besoin de se racheter, ces Oriverde.
Ils essayent de chasser un petit peu leur fantôme parce qu'ils ont quand même enfin réussi à battre le Paraguay au tir au but en Copa América. Parce que les deux dernières fois qu'ils les ont joués, ils se sont fait sortir au tir au but. Là, ils sont passés. Ils ont joué avec le maillot blanc pour le match d'ouverture. Ils ont gagné. La chance qu'ils ont, entre guillemets, s'ils veulent exorciser, c'est que pour le coup, ils n'auront pas l'Uruguay en finale au Maracana. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Mais oui, on les sent concernés, on les sent bien. Après, la grande interrogation, c'est comment vont-ils être suivis par le peuple brésilien. On va voir. Alors, on est en demi-finale face à l'Argentine. Ça devrait, franchement, ça devrait chauffer au niveau de l'atmosphère générale, au moins au stade. Et puis les joueurs, ils sont à 90 minutes d'une finale chez eux. Donc voilà. contre.
On parlait aussi de l'Argentine. L'Argentine qui a quand même très mal démarré dans cette Copa América, avec une défaite 2-0 contre la Colombie, puis un match nul. On ne les voyait pas aller très loin. Finalement, ils sont bien là. Ils sont ben, au rendez-vous de cette demi. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que finalement, après l'adversité, ils peuvent aller jusqu'au bout, ces Argentins?
C'est vrai que dans le jeu, ce n'est pas forcément complètement convaincant. On les a vus souffrir par moments face au Venezuela, même si au final, ils n'ont pas été tant menacés que ça. Mais dans le jeu, enfin, le Venezuela a eu 60% de possession face à l'Argentine. C'est quand même fou rien que de se dire ce chiffre-là. On attend aussi côté argentin de voir enfin Léo Messi, parce que pour l'instant, sa Copa América n'est pas franchement une réussite. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le Brésil, hein, tout est possible pour eux. On attend quand même vraiment, enfin, on est toujours exigeant avec l'Argentine, mais on attend vraiment autre chose dans le jeu de la part de l'Argentine.
Alors ce match Brésil-Argentine, il prend évidemment toute la lumière, mais ça nous ferait presque oublier qu'il y a une deuxième demi-finale, Pérou contre le Chili. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette deuxième demi?
Ah bah déjà, ça va être un autre classico, parce que Chili-Pérou, c'est des matchs toujours très, 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 très chauds. Ces deux pays-là se détestent cordialement, donc ça va être sympa par rapport à ça. Et après, ben, le Chili est toujours là. La régénération dorée du Chili est toujours là. Elle a montré. On voit que les leaders que sont Aránguiz, Vidal, Medel et même Sanchez. Sanchez fait une Copa América incroyable. On avait beaucoup d'interrogations sur le Chili hein, avant la compétition, parce que l'année écoulée sans la Coupe du Monde et ensuite tous les matchs de préparation n'ont convaincu personne. Et là, au final, ils sont très, très convaincants dans le jeu. Nous, on a vu Chili-Uruguay, c'était probablement le meilleur match de la Copa América. Donc, sur le papier, j'ai envie de dire que le Chili part devant, mais c'est un classico. Et un classico, c'est pas un match comme un autre.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour votre regard avisé sur le foot sud-américain. Puis on vous souhaite bonne route, surtout en bus jusqu'à Belo Horizonte.
Ouais. Merci.
Eh bien, merci à vous. Bonne soirée.
Merci.
Allez, on ferme cette immense page football par la Coupe du Monde féminine. Le rêve bleu qui s'est brisé face au rêve américain. Défaite 2-1 de la France face aux États-Unis. Un quart de finale totalement dominé par les Américaines et par Megan Rapinoe, double buteuse. Mais les Françaises prennent la porte donc dès l'écart. Elle qui rêvait de remporter une première grande compétition, en plus jouée à la maison. Une Coupe du Monde suivie de très près par Eric Chorin pour RFI, qui a rencontré une autre spectatrice attentive autrefois sur le terrain. C'est Candice Prévost qui suit cette Coupe du Monde pour RTL et pour Canal+. Elle a aussi co-réalisé une série documentaire sur le foot féminin à travers le monde, Little Miss Soccer. Candice Prévost qui a cru, même si l'entame de match des Américaines l'a impressionné.
C'est vrai que le début de match ne nous a pas forcément amené à y croire dès le départ, avec ce but encaissé à la 5e minute, ça nous a mis un petit coup derrière la tête. Et puis, elles nous ont redonné l'espoir. Ces Françaises, elles ont l'habitude quand même de nous faire gérer un petit peu bizarrement nos émotions. Donc là, on attendait à pousser et essayer de recoller au score avec un but qui n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'on a on a joué quand même au ballon. Les Américaines ont eu peur. Elles sont passées de 4 derrière à 5 derrière. Donc on a senti qu'elles avaient elles aussi peur. Donc je pense qu'il y a une petite déception, parce que les Françaises se sont réveillées un peu trop tard.
Mais les Américaines ont attaqué ce match pied au plancher comme on s'y attendait.
Hein. Ouais, à chaque début de match. Chaque début de match, elles sont présentes, elles sont impactantes avec un rythme assez incroyable. C'est le rouleau compresseur, hein, c'est leur jeu. Elles sont athlétiques, elles sont prêtes physiquement aussi. Et nous, on a peut-être manqué aussi un peu de fraîcheur. Et puis, c'est notre défaut, hein, début de rencontre. On est un peu déçus et je pense qu'on manquait aussi peut-être un peu de fraîcheur et de lucidité parfois dans les 20 derniers mètres.
Juste un petit mot sur cette demi-finale à venir, Angleterre-États-Unis, c'est un choc, hein, énorme. Hein.
Oui, c'est une finale. Moi, ouais. Très clairement, avec cette équipe d'Angleterre qui a fait forte impression face à la Norvège. Alors, Norvège un peu émoussée, fatiguée. Il y aura, je pense, un défi physique, encore une fois, parce que ce sont deux équipes très athlétiques. Et je pense que l'Angleterre a des arguments, parce qu'elles sont plus fraîches. Elles ont réussi, je pense, à aussi se reposer peut-être une journée de plus aussi. C'est pas négligeable à ce niveau-là de la compétition. Mais non, les Anglaises sont intéressantes. Je pense que par rapport à ce que j'ai vu, je miserais sur l'Angleterre.
Voilà, l'équipe de France qui ne sera pas en demi-finale de la Coupe du Monde, au contraire des États-Unis qui joueront face à l'Angleterre, et l'autre demi, Pays-Bas-Suède. Allez, Mondial Sport, c'est terminé. On n'oublie tout de même pas Wimbledon qui débute demain. Ça doit faire plaisir à notre spécialiste tennis, Eric Mamrud, qu'on sait à l'écoute. Mais pour l'instant, on est toujours à fond sur la CAN. Deux matchs encore sur l'antenne de RFI. Demain, Namibie, Côte d'Ivoire et Kenya, Sénégal. Merci à Nicolas Benita à la réalisation. Et à demain tout le monde pour une nouvelle journée foot.